Oui, il est très difficile aujourd'hui de parler des caractères féminins ou masculins de Dieu, parce que, en fait, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, les rôles sont de plus en plus mélangés. En effet, il y a des femmes chefs d'entreprise, et puis les hommes et les pères sont souvent aujourd'hui très tendres avec leurs enfants, et ils les gardent volontiers, et même les changent quand ils sont petits, ce qui n'était pas tellement envisageable, même à la génération de mes propres parents. Alors donc, parler de masculinité ou de féminité en Dieu n'est possible, je crois, aujourd'hui, qu'en reprenant les grands clichés. Donc ce sont des grands clichés, à tort ou à raison, où l'on considère que le masculin, c'est la force, c'est la sévérité, c'est le travail, la puissance, le règne, c'est le fait d'ordonner, de donner des règles, et l'action. Et puis à l'opposé, dans nos imaginaires, le féminin est plutôt du côté de la tendresse, de la douceur, de la compassion, de l'enfantement, de l'obéissance même, de la soumission et du consentement. Alors dans ce sens, il est certain que Dieu, le plus souvent dans la tradition chrétienne, a plutôt été vu du côté de l'homme. Et c'est vrai que quand on présente Dieu comme un roi, quand on conclut le Notre Père en disant « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire », il y a là une image très, très virile, je dirais très masculine de Dieu. Et souvent dans le discours et dans la théologie chrétienne, on trouve cette idée d'un Dieu qui est comme un monarque, une sorte de Dieu tout-puissant, un Dieu devant lequel on s'approche en tremblant, un Dieu qui juge, un Dieu qui commande. Et ce n'est pas entièrement faux, bien sûr, mais le problème, c'est qu'un Dieu comme ça, c'est quand même assez difficile à vivre. C'est difficile à vivre parce que cela nous met dans la crainte et dans la terreur. Et je pense qu'il est donc indispensable, et de tout temps, les fidèles ont ressenti la nécessité et le besoin de trouver dans leur foi une dimension féminine. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous sentir aussi aimés, accueillis, pardonnés, pas jugés, nourris, etc. Alors, je pense qu'effectivement, il n'y a aucune raison de supprimer de Dieu toutes ces dimensions de la féminité. Il n'y a aucune raison de privilégier en Dieu cette dimension du Père Tout-Puissant et d'oublier cette dimension féminine et douce de Dieu. Comme, pour plusieurs raisons plutôt. D'abord parce que nous en avons besoin. Et si jamais nous avons une image de Dieu qui est trop masculine, alors de toute façon, notre besoin, notre nécessité de trouver un peu de féminité quelque part dans notre foi va s'orienter autrement. Et je pense que cela explique en particulier toutes les religions qui créent des images de la féminité. En particulier, le culte de la Vierge Marie est très compréhensible parce que je pense que la plupart de ceux qui ont une vénération pour la Vierge Marie ont en contrepartie une conception peut-être trop virile de Dieu. Ce sont des gens qui ont peur de Dieu et pour lesquels Dieu est cette espèce de père terrifiant, ce père qui nous fait trembler et devant lequel on n'ose même pas approcher. Ce Dieu auquel on n'ose pas tout dire. Alors il y a une nécessité absolue quand on a un Dieu pareil qu'il y ait quelque part un peu de tendresse, un peu d'amour, un peu de douceur, un peu d'écoute. Et je pense que si les protestants ont réussi à se passer de la Vierge Marie, c'est peut-être que depuis la Réforme, ils ont prêché un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu d'accueil. Et si on a effectivement une image peut-être plus accueillante de Dieu, alors on n'a pas besoin d'aller se créer un deuxième Dieu, comme s'il fallait qu'il y ait un Dieu masculin et un Dieu féminin à côté. Alors bon, après tout, on a le droit d'être polythéiste, Mais ce qui me dérange un peu dans la piété mariale, c'est que finalement Marie est un peu en dessous. Et donc il y a quand même un déséquilibre. Et on dit oui, il faut dans ma foi qu'il y ait du masculin et du féminin, mais c'est quand même le masculin qui est au-dessus. Eh bien, je dis non. À la limite, si on veut garder Marie, alors soyons carrément polythéistes. Et disons oui, il y a Dieu et puis il y a Marie, et les deux sont à égalité. Mais de ce côté-là, je suis pour l'égalité des sexes, finalement. Et je ne pense pas qu'il soit juste, dans notre foi, de privilégier ces prétendues qualités masculines et de dire « la tendresse est finalement un sous-produit de l'autorité », de dire « l'accueil, c'est bien, mais c'est quand même moins bien que le jugement ». Et comme si au-dessus de tout était la force, le jugement, le gouvernement, et comme si ce côté maternel était « on s'excuse un peu, on en a besoin et on le garde, mais est une sorte d'intermédiaire entre nous et Dieu ». Mais non, je crois que les hommes et les femmes ont des qualités qui sont complémentaires et qu'il est juste qu'en Dieu se trouve résumé le meilleur de toutes les qualités masculines et féminines, en quelque sorte. Alors oui, je n'aime pas cet éclatement de la foi où l'on voudrait attribuer certaines choses à Dieu et d'autres qu'on met ailleurs, on ne sait pas très bien où. Alors, d'ailleurs, j'ai parlé de la piété mariale, mais même ceux qui ne sont pas dans ce type de piété arrivent à bricoler des choses. On parle de Dieu, mais alors on va parler aussi de la bonté de Dieu, ou du Saint-Esprit comme une image un peu féminine, ou d'autres choses. Et en fait, peut-être ai-je tort de trop simplifier les choses, mais pour moi, j'ai besoin d'avoir une foi simple. Et j'ai besoin d'avoir un Dieu unique. Et pour moi, Dieu, c'est ce en quoi je crois. C'est ce que j'aime. Et Dieu, c'est une sorte de, je dirais, de gros coffre au trésor dans lequel je mets le meilleur de tout ce en quoi je crois et tout ce dont j'ai besoin. Et je crois que Dieu est une fontaine merveilleuse qui me donne tout l'essentiel pour moi de ma vie. Et donc je ne veux pas éclater et dire je vais trouver l'autorité en Dieu et la tendresse ailleurs. Pour moi, Dieu me suffit et j'ai besoin que ce soit Dieu lui-même qui me donne tout ce dont j'ai besoin. La tendresse, l'amour, la force et aussi peut-être les conseils, voire même les mises en garde ou les jugements, mais que Dieu puisse me donner tout cela. Alors dans la Bible, qu'en est-il ? Dans la Bible, on a l'impression que Dieu est plutôt présenté comme un patriarcal, comme un Dieu père, comme un Dieu puissant. Et pourtant, ce n'est pas si évident. Et cela, on le voit de différentes manières. D'abord, et peut-être que c'est le point le plus essentiel, parce que cela ne nous apparaît pas à nous, parce que nous ne parlons pas la langue de la Bible, mais en fait, la féminité de Dieu est présente du début à la fin de l'Écriture. Et je n'ai pas repéré le nombre d'occurrences, mais probablement que cela se compte en plusieurs centaines et en centaines de centaines. Tout simplement parce que l'une des qualités essentielles de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est la tendresse et la miséricorde. Et sans arrêt, il est dit que Dieu est un Dieu miséricordieux, comme nous disons, ou est un Dieu de tendresse, comme disent nos traductions plus modernes. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que la tendresse et la miséricorde, en hébreu, racham, eh bien, cela vient du mot qui désigne le sein maternel, le ventre de l'enfantement. Et la tendresse, racham en hébreu, et c'est aussi vrai d'ailleurs dans le grec du Nouveau Testament, splagnisomé vient de splagnon, qui veut dire les entrailles maternelles, le sein maternel, la matrice, finalement. Et du coup, ce sentiment de tendresse et de miséricorde, qui est celui exclusivement attribué à Dieu dans toute l'Écriture, c'est le sentiment de la mère pour son enfant. Le sentiment de la mère, même pour l'enfant qu'elle porte dans son ventre ou qu'elle a porté dans son ventre. C'est le sentiment de la mère pour le fruit de ses entrailles. Et alors voilà, c'est une chose qui nous échappe. Mais certaines traductions veulent même dire, quand par exemple dans le psaume 103 que nous avons lu tout à l'heure, qui dit « Toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité », on pourrait traduire, et ce serait plus juste, « miséricordieux » par « maternel ». Et de dire « Et toi, Seigneur, tu es un Dieu maternel et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et oui, cette bonté, cette miséricorde, c'est le sentiment maternel par excellence. Alors, c'est quand même extrêmement essentiel, voyez-vous. Et c'est vrai que ce Dieu Père même, qui apparaît souvent dans les psaumes, n'est pas forcément vu comme un père brutal, comme un père autoritaire et violent. Et c'est même une conception très moderne du père qui apparaît dans l'Ancien Testament, puisque, vous voyez, même dans ce psaume 103, il dit « Comme la tendresse du père pour ses enfants, ainsi la tendresse et l'amour de Dieu pour ceux qui le cherchent. » Et il s'agit donc bien là d'une image, j'allais dire, très maternelle de Dieu. Et je pense que finalement, notre siècle a raison peut-être de mélanger un petit peu les rôles, parce que quand nous disons à Dieu notre Père, ce n'est pas simplement pour envisager le Père qui nous fait trembler, mais c'est aussi le Père qui nous aime, tout simplement. Et donc, dans cette notion de Père, il faut le comprendre comme nous le faisons aujourd'hui, en pensant que le Père, c'est aussi la Mère, et que la Mère, c'est aussi le Père, parce que le Père, comme la Mère, ont finalement tous les deux des rôles souvent un petit peu, j'allais dire presque interchangeables aujourd'hui, et en tout cas le Père de la Bible, le Père que l'on appelle ainsi à propos de Dieu, n'est pas le Père terrifiant. Et puis il y a tous ces autres passages où Dieu est explicitement comparé à une mère dans la Bible. Nous avons lu tout à l'heure en Ésaïe 66, 13, comme quand le prophète dit de Dieu, plutôt quand Dieu dit, d'après Ésaïe, « Comme une mère console ses enfants, ainsi moi je te consolerai, je te prendrai sur mes genoux et je te caresserai la tête. » C'est absolument merveilleux. Ou alors, regardez dans le livre du prophète Osée, au chapitre 11, voilà ce qui est écrit. « Quand Israël, c'est Dieu qui parle, quand Israël était enfant, je l'ai aimé. » Et alors, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Et c'est moi, dit Dieu donc, qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm. C'est moi qui l'ai porté dans mes bras. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui donner à manger. On ne peut pas trouver de plus belle évocation, de plus belle image de cette tendresse maternelle de Dieu pour ses fidèles. Ou encore une, tenez, en Ésaïe 49, verset 14, l'Éternel dit à Israël, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, moi, je ne t'oublierai jamais. » Et puis, bon, il y en a encore d'autres, tous ces passages comme celui que je vous ai lu de l'Évangile où le Christ dit « Comme une mère, comme une poule rassemble ses poussins, j'ai tellement désiré te prendre sous mon aile » ou encore toutes ces formules de bénédiction extraordinaires que l'on trouve dans les psaumes où l'on dit que Dieu te couvre de ses ailes. Alors vous voyez, on n'est pas loin de cette idée du Dieu mère poule. Mais la Bible va encore plus loin. Et d'une façon très étonnante, parce que tout à l'heure, je vous ai lu le récit de la bénédiction de Jacob à l'égard de Joseph, que l'on trouve en Genèse 49, les versets 22 à 26. Et voilà cette bénédiction très étonnante. « Voici l'œuvre de Dieu, voici l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, il te bénira. Il te bénira des bénédictions du ciel et des bénédictions d'en haut, des bénédictions des eaux d'en bas, des bénédictions de la mamelle et du sein maternel. » Donc il y a là encore quelque chose d'explicite concernant la maternité de Dieu. Mais ce qui est très étonnant, c'est le début de la bénédiction, quand il dit « Voici l'œuvre du Dieu Tout-Puissant ». Alors cette notion de toute-puissance m'interroge parce que ça c'est plutôt du côté traditionnellement du Dieu viril, macho, masculin, du roi, du chef, du monarque. Or, ce qui est traduit là par tout-puissant, c'est un mot hébreu que vous connaissez peut-être, c'est El Shaddai. Et El Shaddai, c'est l'un des titres de Dieu. Et en général, quand on voit El Shaddai en hébreu, la plupart de nos traducteurs traduisent par « tout-puissant ». Mais ça, c'est d'abord une tromperie de traduction, parce que El Shaddai ne veut pas dire « tout-puissant ». El Shaddai, ça veut dire « puissant ». Et il y a quand même une marge. Donc je pense que Dieu soit puissant, je le crois. Je crois que Dieu est une force extraordinaire, que Dieu est une puissance merveilleuse qui peut transformer nos vies, qui peut transformer le monde et tout ça. Mais dire que Dieu est tout-puissant, enfin moi je ne le dis pas. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en tout cas la Bible elle-même ne le dit pas. Ce sont nos traducteurs qui l'ajoutent. Mais l'autre chose plus grave, c'est que ce mot Shaddai, il est difficile à traduire, parce qu'il y a deux possibilités pour le traduire. Il y en a une où, qui fait dériver le mot Shaddai d'un verbe qui veut dire dévaster, détruire. Et c'est ce sens qu'ont retenu la plupart de nos traductions qui traduisent, dans le meilleur des cas, El Shaddai par le puissant ou le très puissant. Sous-entendu, il est très puissant parce qu'il peut dévaster et faire le mal. Mais je ne suis pas d'accord avec cette traduction. Parce que le verbe « dévaster » est en général appliqué dans la Bible au sens de faire le mal et non pas comme ayant Dieu comme sujet. Et je ne pense pas que Dieu soit un Dieu dévastateur, ni que sa puissance soit une puissance de destruction. Alors l'autre étymologie possible, qui est très étonnante, c'est que « Shaddai », c'est en hébreu, c'est ce qu'on appelle un duel. C'est-à-dire que c'est une forme plurielle qui ne s'attribue qu'à une chose qu'on a en deux objets. Quoi. Et Shad, qui est donc le singulier de Shaddai, cela veut dire le sein maternel, la poitrine de la femme. Et donc cela, les mystiques juifs l'ont dit depuis 3000 ans, que El Shaddai peut être traduit comme étant le Dieu aux deux seins, le Dieu aux deux mamelles, nourricière. Et c'est d'ailleurs très, très logique, puisque effectivement, on présente là au début, c'est le Dieu Shaddai qui te bénira, il te bénira de la bénédiction donc du sein, du ventre maternel et de la bénédiction des mamelles. Et donc c'est tout à fait logique que l'on trouve en cette occurrence le Dieu aux deux mamelles, le Dieu féminin, le Dieu nourricier en quelque sorte. Et il est vrai que j'ai regardé dans la Bible tous les passages où Dieu est appelé le Dieu Shaddai, le Dieu El Shaddai. Eh bien, dans tous les cas, Genèse 17.1, 28.3, 35.11, 43.14, etc., il s'agit toujours de la question de la fécondité qui est en jeu. Ce Dieu Shaddai, il te nourrira. Ce Dieu Shaddai, il te donnera d'être fécond. Et même jusque dans le Nouveau Testament, dans ce Magnificat, quand la Vierge Marie dit « Le puissant a fait pour moi des merveilles », eh bien ce puissant, c'est encore le Dieu Shaddai, le Dieu aux mamelles, le Dieu qui nous nourrit et le Dieu qui nous donne la vie. Et je pense donc que c'est là une chose absolument essentielle, de trouver que Dieu n'est pas simplement un Dieu qui fait peur ou qui nous terrifie, mais qu'il y a aussi en Dieu toute cette féminité, mais alors là, plus seulement dans les clichés dont je vous disais, la tendresse, la douceur et ces choses-là, mais même dans ce qui est irréversiblement attribué à la mère, c'est-à-dire le fait de pouvoir porter son enfant, de pouvoir l'enfanter et de pouvoir le nourrir, de pouvoir le prendre dans ses bras pour l'allaiter. Et je crois que nous avons besoin de cette image d'un Dieu qui est pour nous comme cette mère qui nous allaite, qui nous berce et qui nous prend comme ses enfants. Alors, la tendance à séparer Dieu en deux, entre le Père et la Mère, est une tendance très ancienne. En général, on dit que, même en Israël, on retrouvait deux divinités autrefois. Et il y a même une inscription qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui est faite à Dieu, à l'Éternel, à Yahvé et son Asherah. Alors il y avait, d'après les spécialistes, avant le 8e siècle avant Jésus-Christ, une sorte de foi dans le fait qu'on croyait en Dieu et dans sa femme. Donc il y avait la femme de Dieu, en quelque sorte. Il y avait l'Éternel et son épouse. Et on croyait dans une sorte de dualité masculine et féminine. Dieu s'appelait l'Éternel et la femme de Dieu s'appelait Asherah. Et on en trouve des traces. On en trouve aussi des traces dans Jérémie. Jérémie, c'est après la réforme de Josias, qui lui a essayé de dire « Il faut tout rassembler en un seul Dieu. Arrêtons d'éclater Dieu en différentes divinités. Il faut que tout soit en Dieu, le masculin et le féminin. » Et on trouve en Jérémie, par exemple en Jérémie chapitre 7, verset 18, cette lutte contre les Israélites qui continuaient à adorer la reine du ciel. Et Jérémie est très violent contre ses adorateurs de la reine du ciel. Et Jérémie dit, mais non, il ne faut pas faire ça, parce que finalement, c'est Dieu lui-même qui est pour nous aussi la reine du ciel. Nous avons un Dieu unique. Mais c'est vrai que pour avoir un Dieu unique, il faut encore qu'en Dieu se trouve tout l'essentiel. Et qu'en dire alors? Eh bien, je crois que le grand théologien saint Anselme, dans le Proslogion, c'est-à-dire le livre où il a fait une démonstration de l'existence de Dieu, a dit, comme définition de Dieu, « Dieu, c'est en quelque sorte, français courant, le summum. C'est ce qui est tel que l'on ne puisse rien imaginer de plus grand et de meilleur. Dieu, c'est le maximum, le sommet, l'extraordinaire, de toutes les qualités possibles, le meilleur de tout ce qui existe, et par conséquent, il est forcément le summum aussi de toutes les qualités que l'on trouve aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et il est essentiel que Dieu soit pour nous construit de tout cela. Alors si on oublie un côté, alors on déséquilibre Dieu. Si on ne garde que le côté homme, alors on tombe dans un Dieu qui nous fait peur, un Dieu de jugement, un Dieu qui laisse peu de place, et si Dieu n'est que Père, alors, suivant Freud, pour survivre, nous n'avons qu'une solution, c'est de tuer le Père. Et je pense que c'est souvent une des causes de beaucoup d'athéisme aujourd'hui. Des gens qui, justement, ont une conception trop forte de Dieu, qui les entraîne soit à en sortir pour respirer, soit à accuser Dieu, comme un adolescent de 16 ans accuse son père de ne pas être aussi bien que ce qu'il aimerait qu'il soit, en quelque sorte. Et justement, Dieu n'est pas celui qui pourrait retirer les guerres, régler tous nos problèmes, gérer tous les conflits. Dieu est ce qu'il est. Et il y a en lui une forme de tendresse, voire même de faiblesse. Et si Dieu est trop femme, ce qui arrive aussi, alors on a un Dieu doux, un Dieu agréable, mais qui ne responsabilise pas. Et je dirais qu'il faut aussi sortir des jupons de sa mère. Il faut aussi qu'à un moment donné, Dieu nous mette des coups de pied au derrière, ou Dieu nous donne une loi, ou nous mette en face de nos responsabilités. Et il faut donc qu'il y ait, je dirais, les deux, finalement. Mais peut-être est-il essentiel de savoir que Dieu a toutes ces qualités-là, qu'il est à la fois celui qui nous pousse en avant, celui qui nous donne la loi, celui qui nous donne de la rigueur, et en même temps, il est celui qui nous comprend, celui qui nous aime, celui qui nous accueille, celui auquel on peut tout dire. Et c'est un peu dangereux d'appeler Dieu père ou mère parce que on est dépendant de l'image que l'on a de son propre père ou de sa propre mère ici-bas sur terre, mais il faut le comprendre là dans le sens idéal et de dire que pour nous, affirmer que Dieu est Père, en comprenant que si on dit Père, ça veut dire aussi qu'il est Mère, admettons qu'il est un Père moderne, si l'on peut dire, cela veut dire que ce Dieu est un Dieu qui non seulement nous donne la loi, mais aussi qu'il est ce Dieu auquel on peut tout dire, ce Dieu auquel on peut se confier, ce Dieu auquel on peut parler sans aucune crainte, dans la prière, parce qu'il nous aime et qu'il est plein de compréhension, de bonne volonté, de tendresse, de douceur à notre égard. Et là, certainement, y a-t-il dans dans ce message du Christ qui nous présente Dieu comme un Père, une incitation à rentrer dans une relation extrêmement personnelle avec Dieu. Un Dieu qui n'est pas simplement un Dieu philosophique et qui n'est pas non plus un Dieu lointain, une sorte de Dieu de monarque terrifiant, mais un Dieu infiniment proche et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, comme des parents essayent de faire pour leur enfant. Mais nous ne sommes pas parfaits. Dieu, lui, l'est, je le crois. Et donc, il nous donne, oui, tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Il nous donne la nourriture, le pain spirituel dont nous avons besoin. Il nous donne les commandements, il nous explique la vie, ce que l'on peut faire, ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Il nous donne des règles, il nous donne des directions dans la vie. Et puis il nous nourrit d'amour, il nous donne un lieu, un enracinement. Et cette présence infinie d'amour, de pardon, de conseil, de tendresse, de nourriture, tout cela, c'est Dieu qui nous le donne et nous avons bien de la chance. Amen.